This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Binge Audio.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut à toutes et tous, bienvenue dans Flashback, hors série estampillé nos ciné, où on se balade tranquille et printanier dans les couloirs du temps, comme disait Jean-Marie Poiré, en farfouillant notre patrimoine cinéphilique et télévisuel. Je savais que ça te plairait, David. En l'occurrence, précisément, on est dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. Il y a bientôt 20 ans, la télé américaine se rappelait soudainement que les séries médicales pouvaient être autre chose que de très stressantes drama où on bombarde de vocabulaire parfois aussi terrifiant que les situations décrites à l'écran, que par le passé il avait été possible d'allier humour et hôpital et que cette tradition pouvait renaître, en l'occurrence via les très juvéniles et bientôt cultes de Zach Braff, dans une série à succès baptisée Scrubs, dont on va revisiter les grands moments avec mes deux camarades ici présents, Aurélia Baranès, salut Aurélia.
Salut.
Et David Honora, salut David.
Salut.
Flashback par nos ciné spéciales Scrubs, c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Alors, est-ce que vous avez un souvenir particulier lié à Scrubs, les amis? Aurélia, plein de souvenirs.
Oui, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, parce que pour le coup, c'est ce que je peux appeler ma série préférée. Ah. C'est celle que j'ai le plus vue dans ma vie. Et je pense qu'elle m'a accompagnée sur le lycée, sur l'université, sur tous les moments difficiles. Donc vraiment, Scrubs...
Découverte à la télé française, du coup, plutôt.
Oui.
Ouais,
exactement.
Sur M6.
Oui, ou même Paris Première.
Ou sur Paris Première, même.
Oui.
Ah oui, une early adopteur, oui. Aurélia. David?
Alors moi, je l'ai découvert plutôt par des moyens illégaux.
Quoi?
À l'époque, donc je me souviens d'avoir fait des nuits entières, hein, d'épisodes de Scrubs. Moi, j'ai un rapport un petit peu spécifique à cette série. C'est en fait, j'ai des parents médecins qui m'ont eu assez jeune, et en fait, j'ai un rapport à l'hôpital qui est pour moi un environnement familier, en fait, où j'allais gamin, qui du coup est que j'associe pas forcément à la maladie ou
au drame, justement.
Ouais, voilà. Ouais. Pour moi, c'est plus une sorte de lieu de vie où j'ai été très jeune et donc qui est pas forcément lié à la maladie, dans lequel les gens vivent aussi un certain nombre de choses. Et du coup, j'abordais avec cet œil un peu particulier les séries médicales. Par ailleurs, c'est une série que j'ai découvert à la fin de l'adolescence, jeune adulte, et c'est aussi tout le sujet de la série, oui. comment tu deviens adulte, et du coup, qui me touchait particulièrement à l'époque. Ça reste aussi une bulle temporelle, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trop revue depuis, correspond vraiment à une époque, Scrubs.
Oui, je suis un peu pareil, je m'identifiais pas mal forcément pour un côté d'âge au personnage de JD et à son évolution dans la vie d'adulte en regardant ça. Moi, c'était sur M6 en l'occurrence. Pas sur Paris Première. Vous le savez, on profite dans ce hors-série du côté un peu historique patrimoine de Flashback pour aller fouiller également dans les archives et trouver une d'un genre très particulier, une archive, David, qui ne nous rajeunit pas, c'est nos préférés.
On va repartir au début des années 2000. Du coup, cette fois-là, on est en septembre 2005. C'est la 57e cérémonie des Emmy Awards. Qui sont donc les Oscars de la télé. Et là, on a Zach Braff, donc l'acteur principal de Scrubs, qui joue JD, et qui monte sur scène avec Hugh Laurie, qui interprète Dr. House dans la série du même nom. Et ensemble, ils vont remettre le prix du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique.
Thank you, ladies and gentlemen. Young Master Braff and I are very honored to be presenting an award in... What?
No, nothing. I didn't realize we were doing British accents.
Well, no, we're not. I'm British. This is the way I talk.
Sure it is, Hugh. The nominees for Outstanding... Try not to stage me. Supporting Actress in a Drama Series are...
Alors, j'ai laissé le début de la musique,
la musique de The West Wing.
The West Wing, j'entends ça, ouais.
Elle n'a pas gagné.
Scandale.
Et donc, ouais, j'ai sélectionné cette archive parce que je trouvais ça marrant de les voir ensemble remettre un prix. Et c'était pour vous interroger, justement, sur est-ce que c'était, à l'époque, l'âge d'or des séries médicales, parce qu'il y avait, Scrubs, il y avait Dr. House, il y avait Urgence qui n'était pas encore terminée. C'était les débuts de Grey's Anatomy. Il y avait H en France, hein,
qu'on peut citer.
On va pas faire tout un épisode sur Scrubs sans citer H.
Bien sûr.
Voilà, est-ce que vous pensez que c'était l'âge d'or à ce moment-là, ou est-ce que ça a été avant ou après?
Aurélia?
Je pense qu'effectivement, on est dans l'âge d'or de la série, et là où ils ont été très forts avec Scrubs, c'est d'avoir pris ce parti de faire sur le ton de l'humour, ce qui n'était pas forcément facile, surtout dans un milieu, un hôpital, parce que... Même si tu en as des bons souvenirs, je pense que l'hôpital, ça a une image quand même de drame, d'accident. C'est l'endroit où on n'a pas forcément envie de se retrouver. Et donc, c'était hyper intéressant d'avoir ces personnages hyper excentriques et tout cet univers qui s'est créé autour de ça.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai souvenir de cette époque-là où les séries médicales avaient vraiment... prenait même une place très très importante dans la production télé. À limite, ça devenait un peu cliché, le truc qui se passe dans un hôpital ou le truc qui se passe dans un commissariat, ça devenait un peu la même chose, quoi, que les séries policières. Limite à une saturation presque, au bout d'un moment, de se dire encore une série médicale. Et d'ailleurs, ça je pense, ça a continué et ça s'est un peu étiolé quand même, je pense, au moment où ils ont commencé à faire des spin-offs type Private Practice, ce genre de choses qui là marchaient pas du tout et devenait un peu ridicule, devenait des vraies soupes. Du coup, je pense que ça a un peu remis les choses en perspective. Ce qui m'avait plutôt amusé, c'est que des séries comiques dans des hôpitaux, il y en avait eu quelques-unes par le passé, et on retrouvait avec Scrubs cette dynamique-là. Je suis en train d'essayer de chercher comment s'appelait cette série où Jason Alexander avait fait ses débuts. Je crois que ça s'appelait ER aussi, comme Urgence, mais c'était la première version de ER, c'était dans les années 80. Donc Jason Alexander de Seinfeld, et d'ailleurs George Clooney joue dans ER aussi, et on trouvait déjà ce côté c'est une série d'humour dans un hôpital, mais il n'y avait pas encore eu le rouleau compresseur Urgence qui était passé par-dessus. On va quand même parler du cast un peu plus tard, notamment de Zach Braff, on l'a mentionné, mais avant ça, j'aurais bien aimé qu'on dise un mot des créateurs de Scrubs, en l'occurrence de son créateur, de Bill Lawrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui et de la naissance de Scrubs, Aurélia, des débuts?
Pour moi, Bill Lawrence, c'est vraiment un génie dans l'écriture et dans sa manière d'approcher les choses. C'est-à-dire que, on en reparlera un peu plus tard, mais effectivement, c'est quelqu'un qui avait un énorme pari, parce que c'était un gros, gros fan de séries médicales pour le coup. Lui, il adorait ça et il voulait absolument en faire une. Et il a pris le pari de le faire avec déjà des nouvelles têtes. Et en plus, en prenant le parti de le faire sur de l'humour. Et je trouve que ça a été vraiment un coup de génie, un truc très réussi, quoi.
David?
Oui, en fait, on lui doit après aussi d'autres séries comme Spin City, qui sont des séries souvent assez cultes. Et en fait, quasiment toutes ces séries, c'est des séries où les fans sont extrêmement fans de ces shows, et parce que c'est hyper riche comme univers, comme référence, ça va très vite. Il y a des idées, visuelles en plus des idées scénaristiques. D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi qu'on peut dire sur Scrubs, c'est-à-dire que c'est une sitcom, mais monocaméra, donc il y a une créativité aussi sur la manière de mettre en scène. On en reparlera. Il y a aussi un goût pour les séquences musicales qui sont hyper
très
nombreuses.
Et
moi, c'est un aspect de Scrubs que j'aime vraiment beaucoup. C'est un créateur qui est un peu à part, je trouve, dans la production de l'époque, et ça se reconnaît. En fait, il y a une patte qui est vraiment spécifique et qui fait que Scrubs s'apparente pas à tant de choses que ça, en tout cas dans les séries de l'époque.
On va quand même, donc, je le disais, s'intéresser au casting. On l'a dit, c'est avec cette série qui a révélé Zach Braff. Son partenaire à l'écran, c'est Donald Faison, qui joue Turk. Il était déjà connu des téléspectateurs pour son rôle de Murray dans Clueless, le film et la série. Moi, j'aimais beaucoup la série qui passait sur France 2 quand j'étais petit. Sarah Chalke était aussi une inconnue. On a parlé d'elle pour How I Met Your Mother. Ce qui reste un vrai plaisir, c'est quand même aussi le nombre de caméos et de second rôles incroyables qu'on trouve dans la série. Il y en a énormément.
Oui, pour le coup, là-dessus, on va pas s'ennuyer. On peut s'amuser à les compter. Il y en a une tonne. Ils se sont vraiment fait plaisir. Et il y a eu forcément des Friends qui sont passés par là. Il y a eu beaucoup de monde. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de prendre ce pari, de prendre beaucoup de nouvelles têtes. Et tu vois, t'en parlais tout à l'heure, c'est en plus monocaméra, donc il y a un style, voilà, on n'a pas le champ contre champ, c'est on suit une personne. Et je pense que ce que Bill Lawrence il a voulu faire, et ce qui est pour moi très important, c'est qu'il voulait aussi des personnes qui avaient énormément de charisme et qui étaient très forts en impro. Parce que c'est quelque chose, il laissait assez libre.
Il y a beaucoup d'improvisation. Acteurs,
voilà. Surtout Neil Flynn qui joue le concierge, lui, au bout d'un moment, ils ont
arrêté. Personnage central.
Bill Lawrence a dit qu'il avait arrêté d'écrire ses phrases, ses lignes, ça ne servait à rien, il ne suivait absolument rien. Et donc tous ces délires complètement fous sortent de la tête malade de Neil Flynn. Donc c'était intéressant de prendre ce genre de talent, justement.
David ?
Ouais, non, mais c'est vraiment. C'est la série qui. Enfin. Clairement, ça serait impossible de lister tous les personnages secondaires. En fait, par nature, en fait, par la forme de la série médicale, ça appelle à avoir énormément de personnages, puisque il va y avoir tous les patients, des spécialistes, etc. Et je trouve que, ça aussi, je pense, on reviendra dessus, qu'il y a aussi une alchimie entre les personnages principaux, et en particulier entre Zach Braff et Donald Faison, qui eux sont amis de longue date dans la vraie vie, et ça se ressent vraiment à l'écran. Donc tout ce cast... Et génial, et surtout on sent, bon après ça je sais pas si c'est vrai, c'est mes impressions de spectateur, mais t'as l'impression qu'il y a une bonne ambiance en fait, c'est ça qui est, cette série renvoie ça. Enfin,
et puis ce qui moi me touche, c'est que c'est aussi un hommage à la télévision très classique, parce que c'est un grand classique de la télévision d'avoir des caméos, des seconds rôles, des personnes, des acteurs très connus des fois qui font juste un passage de quelques minutes. C'est un vrai classique de la télé américaine très ancienne pour le coup, et je trouvais ça assez touchant, ce côté revendiqué de faire comme on faisait dans la grande télévision du passé. J'ai toujours trouvé ça assez charmant chez Scrubs. Alors forcément, revisiter cette série, c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connu. Aurélien, c'est ta partie. Qu'est-ce que tu nous as ramené ?
Oui, alors pour Scrubs, je suis allée chercher le vrai dans le faux, parce que finalement, je trouve ça intéressant d'avoir une série sur l'univers médical, mais qui est comique. Et finalement, Bill Lawrence, il était très, très attaché aux faits. Donc, par exemple, il avait deux consultants qui étaient des médecins sur la série, qui s'appelaient Jonathan Doris, donc JD, et John Turk, qui sont des amis proches de Bill Lawrence et qui étaient là pour veiller à ce que les cas soient le plus exact possible, ce que je trouve vraiment chouette pour une série comique de suivre quand même cette trame-là. Et il y a beaucoup de choses qui vont dans le vrai. Par exemple, l'hôpital est un véritable hôpital. Je disais tout à l'heure que Bill Lawrence, il adorait regarder les séries dans le milieu médical. Et à chaque fois, il disait que ça le sortait un peu de truc de voir que c'était des studios, que c'était pas forcément bien fait. Donc lui, il voulait absolument trouver un véritable hôpital, donc qui se trouvait à North Hollywood. Il a malheureusement été détruit depuis pour tourner. Et alors, pour l'anecdote, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, surtout pendant les deux ou trois premières saisons de Scrubs, il se retrouvait quasiment tous les jours de tournage avec des patients qui arrivaient, parce qu'il pensait que c'était un véritable hôpital. Donc il se retrouvait avec des personnes qui étaient genre, vite, prenez-moi en urgence. Non, en fait,
on ne peut pas vous aider, vous allez décéder.
Voilà. Du coup, ils avaient mis les gros panneaux avec écrit Not a doctor, qu'on entend à la fin de chaque épisode. Je ne rentrez pas, ne venez pas ici, personne ne pourra vous soigner. Donc, je trouvais ça assez marrant.
C'est le moment où je dégaine le petit questionnaire habituel qu'a concocté pour nous David Honora, qui nous permet de détricoter notre rapport à la série. Alors, question pas facile. Quel est le meilleur personnage ? Alors, moi, j'ai beaucoup hésité. J'ai pas vraiment trouvé de bonne réponse. Dans les récurrents, je dirais quand même, moi, le docteur Perry Cox, donc, qui est joué par John McGinley, qui me fait hurler de rire. Et dans ceux qui sont apparus qu'une fois, on parlait des caméos, des seconds rôles, ça, il y en a énormément. Moi, j'ai une tendresse vraiment particulière pour le docteur Norris, qui est le pédiatre avec ses marionnettes. Et c'est Christopher Meloni de Oz et de New York Unité Spéciale qui le joue, et qui est un acteur qui a un vrai talent comique et qui est très, très rarement exploité. Et là, je trouve qu'il est absolument merveilleux. Aurélia ?
C'est vraiment pour le coup me demander de choisir mon personnage préféré dans Scrubs, c'est de me demander de choisir entre mes enfants préférés. Mais je suis obligée de parler de JD parce que c'est un personnage auquel je me suis beaucoup identifiée. Mais Elliot, je la trouve aussi incroyable. Perry Cox, évidemment. Et le concierge, le janitor, mais même Bob Kelso. Enfin, vraiment, c'est des personnages tellement.
Tu ne veux pas choisir, on a bien compris.
Il y a un épisode avec le concierge que je trouve génial.
Tu devances la question d'après.
Ah, tu vas parler de cet épisode ?
Non, pas du tout.
Où ils exploitent le fait que l'acteur a joué dans Le Fugitif.
Oui,
exact.
Et c'est extraordinaire ce moment-là. Et du coup, ça rend fou JD, machin. Et alors, moi, j'avais aussi noté Dr. Cox parce que, effectivement, moi, je le trouve très drôle, mais aussi, il a un côté très attachant.
En fait,
il est. En fait, ce qui. Enfin, scénaristiquement, il est conçu comme un antagoniste de JD qui, en même temps, est ultra attachant. Mmh. Et
à la fois son mentor et son ennemi. C'est ça. C'est très paradoxal.
Il va révéler des faiblesses, etc. Et c'est, enfin, vraiment, c'est... Et puis l'acteur est superbe. C'est un acteur récurrent d'Oliver Stone. Il est dans quasiment tous les films d'Oliver Stone. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, la galerie de personnages, on l'a déjà dit, est tellement ample, en fait, que à chaque fois qu'on aborde un nouveau personnage, ça nous rappelle peut-être. Okay. Donc moi, j'ai aussi une faiblesse pour alors j'ai peur de, parce qu'on parlait de Ted dans How I Met Your Mother, et j'ai l'impression de me tenter, mais il y a aussi Ted, il y a Todd, ou Todd, non, je parle de Ted, c'est l'avocat chauve qui a son groupe de a cappella.
Oui.
Et j'ai une tendresse incroyable pour les gens qui chantent a cappella, ça me fait un truc. Et toutes les séquences avec son groupe, c'est complètement con et tout. Et je suis hyper emporté par ça. Et donc, j'aime beaucoup le personnage, surtout pour ces séquences-là.
C'est quoi la meilleure scène ou le meilleur épisode? Moi, j'ai noté que moi, j'avais adoré les épisodes avec Michael J. Fox dans la saison 3. Et puis, ne serait-ce que aussi la petite référence à Spin City, qui était donc, on le disait, l'autre création de Bill Lawrence. Aurélia?
C'est difficile aussi de trouver un épisode qu'on aime plus. Déjà, j'adore toutes les séquences où il y a Sacha, le fameux scooter de JD. Mais toutes les scènes avec Sacha sont incroyables, donc vraiment ça, je l'adore. Et sinon, il y a un épisode qui a été vraiment un énorme coup de poing, et je crois que même qu'il a été nommé au Emmy Award, c'est dans la saison 3, l'épisode de la mort de Ben, qui est... Tout cet épisode est incroyable, parce qu'on le suit du point de vue du Dr. Cox, et donc on le voit avec son meilleur ami d'enfance, etc., et on se rend compte à la fin de cet épisode que Ben est décédé. Et cet épisode... C'est un énorme hommage à Sixième Sens, Bill Lawrence l'a toujours dit. Et en fait, je trouve ça très fort justement quand un film aussi culte que Sixième Sens nous a eu et on se dit il est mort depuis le début, et le fait de réussir à se reprendre dans le piège,
se refaire avoir
avec ça. Et je trouve ça vachement bien parce qu'on en parlait tout à l'heure de la dramatique dans une sitcom, et finalement ici, ça a été très bien joué.
David,
c'était aussi l'épisode que j'avais noté comme mon préféré. Alors je l'aurais peut-être pas pitché comme ça parce que on révèle quelques trucs.
Ça spoil à mort.
Mais c'est avec Brendan Fraser, donc qui joue le beau-frère en fait du Dr. Cox. Et c'est un super épisode qui tient très très bien la route. Je l'ai revu justement pour préparer ce podcast et voilà, je me suis laissé emporter par la folk des années 2000 sur la séquence de fin.
La musique est très importante dans Scrubs, on l'a dit.
Ça, j'ai prévu d'en reparler.
Tu as prévu d'en reparler. Très bien. Qu'est-ce qui manque à la série pour être vraiment parfaite? Aurélia, tu vas dire rien. J'aurais dit peut-être qu'elle se soit arrêtée à la saison 8, surtout que le final de la saison 8 est un très très bel épisode.
La saison 9 n'existe absolument pas.
D'accord,
et
d'accord.
Même Zach Braff le dit. Il dit quelle saison 9? Donc je pense que les fans sont d'accord. Je suis d'accord avec toi, effectivement. La série est parfaite de la 1 à la 8.
J'avais une réponse très, très proche de ça. J'allais dire pour la blague, mais t'en as déjà parlé, il aurait pu lui manquer un caméo de Michael J. Fox. Ben non, il y en a un. Quand on regarde dans le détail, en fait, la série, elle a été perturbée par la grève des scénaristes en 2007. En plus, Bill Lawrence était solidaire de la grève des scénaristes, donc il a joué le jeu à fond, etc. Et du coup, la série s'est retrouvée à passer de NBC à ABC. Mais... ça a été trop chaotique pour finir en beauté, à mon sens. Donc, effectivement, faut compter un peu sans la fin, quoi.
Sans la saison 9, effectivement, on peut s'arrêter. Mais pour le coup, surtout qu'il y a une vraie saison finale en plus.
C'est le dernier épisode de la saison 8 est parfait.
Ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'il y a le mieux ou moins bien vieilli? Alors peut-être quelques effets qui piquent un peu les yeux des fois, parce que c'est le début des années 2000, mais sinon, à part ça, Aurélien?
Surtout la saison 1, après, c'est un peu le problème des premières saisons de plein de séries cultes, surtout comiques. Mais c'est vrai que là, on joue beaucoup sur le bruitage, on a presque l'impression d'entendre le pshh à la fin de toutes les blagues, et il y a un moment où ça devient un petit peu lourd. Donc quand on aime la série et quand on la connaît, il n'y a aucun problème. Je pense que quand on veut la commencer, il faut se dire, et c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui commencent une série comique, passe la saison 1, c'est parfois le plus difficile. Donc je pense que c'est un peu les effets comiques et bruitages qui me perturbent un peu
qui aujourd'hui. Qui sont encore très années 90 dans l'esprit. David?
Moi, je trouve que ce qui a à la fois le mieux et le moins bien vieilli, c'est la BO. En fait, elle est vraiment, vraiment datée de cette époque. Ouais. Ça m'a frappé en réécoutant. Et en fait, même dès le générique, c'est un style musical qui était omniprésent à l'époque et qu'on n'entend quasiment plus du tout aujourd'hui. Donc il y a à la fois le rock indé, la pop, des sortes de résurgences de grunge un peu popisé, et puis de la folk, beaucoup de folk, beaucoup de guitare sèche, etc. Et puis aussi les polyphonies, il y en a beaucoup. Il y a des groupes justement, il y a The Choral, il y a le groupe qu'on voit jouer dans un épisode avec tout un orchestre, je ne sais plus comment ça s'appelle ce groupe-là. C'est vraiment, je pense que pour les jeunes générations, ils vont découvrir un univers musical qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Et un autre aspect qui, pour le coup, a plutôt bien vieilli, et ça, c'est aussi lié aux séries médicales, il y a une relative diversité du casting qui reste quand même assez relative. C'est quand même une série assez blanche majoritairement, mais en fait toutes les séries médicales américaines ont de fait un peu de diversité, parce que en fait, pour refléter la réalité de l'hôpital et des quotas, il y a des gens de divers horizons, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Scrubs, y compris dans les personnages principaux, là où à l'époque les séries étaient encore très soit des séries blanches, soit des séries noires. Enfin, il y avait cette ségrégation dans les séries télé qui aujourd'hui est de moins en moins présente. Et déjà à l'époque, Scrubs faisait partie des séries comiques qui faisaient un peu la jonction entre les communautés, on va dire.
Et elle aborde des termes intéressants aussi avec ça, parce que quand on voit que Elliot, on n'arrête pas d'essayer de la faire aller vers la gynécologie parce que c'est une femme et c'est un sujet qui est important et qui a été abordé, elle ne veut absolument pas faire ça. Mmh. Ou même quand ils essayent de faire de la publicité autour de JD et Turk qui ont sauvé une personne dans la rue et ils veulent mettre Turk en avant en disant regardez, on a un médecin noir, on le met absolument en avant, et Turk est absolument complètement gêné par ça. Il y a beaucoup de sujets qui déjà à l'époque étaient abordés.
Dans tous ces sujets sont abordés. Ouais. Après, ça c'est le lot de toutes les séries, mais sur les aspects, les côté un peu homophobie, transphobie, etc. Malheureusement,
elle porte son époque aussi quand même.
Ouais, voilà. Il y a des choses qui peuvent un peu faire tiquer en voyant les épisodes. Ouais.
Est-ce qu'on pourrait faire un remake de Scrubs aujourd'hui? Alors, comme je le dis à chaque fois, moi je suis opposé à l'idée de remake de manière conceptuelle. Et Aurélia?
Non, sauf si vous avez un nouveau Bill Lawrence, un nouveau Zach Braff, un nouveau Sarah Shulk, un nouveau Donald Faison. Voilà. C'est pas possible pour moi, c'est vraiment inimaginable.
Moi je me suis juste posé la question de ce qui changerait. Je pense qu'il y a un truc majeur qui est passé par là depuis, c'est The Office. Et que dans l'esthétique et dans la forme, il y aurait forcément des choses héritées de The Office
qui seraient plus mockumentary.
Des regards caméra, des trucs comme ça, et du coup en fait, je pense que justement par ce prisme là si on met un peu en perspective l'histoire des séries, il y a beaucoup de séries comiques d'aujourd'hui qui sont des mutations de Scrubs passées par The Office, quoi. Et c'est vraiment intéressant à regarder, quoi.
Quelle morale on peut retenir de la série? Alors c'est la même que pour toutes les séries, en fait, que la fin est toujours insatisfaisante, sauf pour les Sopranos, en gros.
Et ne faites pas médecine si vous voulez avoir une vie. Je pense qu'on la voit bien dans la série.
Effectivement, c'est assez concret dans Scrubs. David?
Moi j'avais noté, alors je voulais revenir un tout petit peu sur l'amitié et l'alchimie entre Zach Braff et Donald Faison, que c'est quelque chose qui fonctionne super bien à l'écran, en fait, quand les scénaristes peuvent avoir la chance de travailler avec ça. À cette occasion, je voulais recommander du coup le podcast qu'ils font tous les deux. Ils se sont lancés ensemble, je crois, au moment du confinement ou un peu après, dans un podcast qui s'appelle Fake Doctors, Real Friends. Et en fait, le principe, c'est simple, ils regardent toute la série, ils font un épisode par épisode, parfois une heure et demie, avec des guests, etc. Ils en sont au début de la saison 4, ça prend son temps. Et donc, ils parlent de chaque épisode en détail, après ils digressent sur pas mal de choses, et c'est assez chouette, potentiellement, à écouter si vous découvrez la série, vous voulez la revoir,
comme
vous pouvez vous
faire de la série,
un épisode de podcast, un épisode sur Star.
Tu l'as écouté, Aurélia?
Oui, et justement, ce que tu dis, ce qui est bien, c'est qu'on voit justement que cette amitié n'était pas du tout fausse dans la série, que ce soit pour Zach Braff et Donald Faison, mais même le casting en général, parce que pour le coup, tout le monde joue le jeu de ce podcast et tout le monde vient, et on voit qu'il y a quelque chose de vraiment très solide derrière, quoi, que ce soit avec Sarah Shulk ou avec John C. J'ai oublié son nom de famille. enfin le docteur Cox, pardon.
McKinley. McGinley, pardon.
McGinley, voilà. Pour le coup, et même Bill Lawrence, évidemment, qui est très proche de Zach Braff, mais en tout cas, tout le monde vient, et même ceux qui ne sont que guests ou quoi, tout le monde vient participer, et c'est très cool de l'écouter.
C'est qui aujourd'hui les héritiers de Scrubs? Alors, il y a plein de séries comiques qui ont continué à utiliser des choses que Scrubs avait installées. Moi, j'ai pensé beaucoup à Brooklyn Nine-Nine, ouais, forcément, Aurélia.
Ouais, pour le coup, Brooklyn Nine-Nine, parce que pour les références pop culture, pour le fait de suivre quelqu'un dans son milieu, dans le travail, qui est en plus un univers assez sombre aussi, parce qu'être policier, c'est pas forcément le métier le plus drôle de l'univers non plus. Mais on a un personnage principal très excentrique et qui porte très bien la série. Donc, pour moi, Brooklyn Nine-Nine, c'est... une digne héritière de Scrubs.
Ouais, et puis pareil, dans un univers télévisuel très très codifié, qui est la série policière, qui pour le coup, il renverse totalement, un peu comme le faisait Scrubs. David ?
Clairement, Brooklyn Nine-Nine, surtout qu'il y a des parentés entre le personnage principal et puis JD. Moi, j'avais aussi noté sur la manière dont les séries comiques jouent avec les formes, avec le récit, avec les genres aussi cinématographiques. Des séries comme The Good Place ou Community sont un petit peu héritières, un peu plus lointaines de Scrubs et pousse un peu plus loin l'ingénierie scénaristique. Et puis, même une série comme Parks and Rec, aussi, qui est dans un...
On croise d'ailleurs des acteurs quand même, parce que Aziz Ansari est apparu dans Scrubs aussi, joué dans la saison 8, je crois.
Donc voilà, c'est ce type de série comique qui vient de Scrubs, même si, encore une fois, je pense que c'est quand même une série vraiment à part, qui a pas tant de jumeaux, quoi.
Mais il y a Cougar Town aussi, quand même, qui a été un vrai bel hommage à Scrubs, déjà parce que c'est Bill Lawrence qui est aux manettes, mais en plus, on a plusieurs réunions Scrubs intérieures, dont un épisode spécial où il y a quasiment tout le casting. Donc, c'est un vrai régal, et elle est aussi sur Star, donc ce sera l'occasion de la revoir.
Voilà, magnifique, c'est la fin de ce flashback. Merci à tous les deux. Scrubs, on l'a dit, c'est à découvrir, redécouvrir peut-être sur Star, la nouvelle plateforme de Disney+, qui est le sponsor de cet épisode. Merci à Mathieu qui était à la technique, binge.audio, pour retrouver tous nos épisodes et nos podcasts, et à très vite pour un nouvel épisode.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.